L'ingénieur, il recherchait, il retrouvait. D'accord.
Non, on va t'écouter surtout.
Voilà, vous allez m'écouter. Donc, voilà, on va faire en quatre parties. D'abord, l'histoire et l'évolution de l'exploitation minière dans le monde. L'état actuel de l'industrie minière. Le renouveau de la mine en France. Et le rôle des écoles d'ingénieurs dans le renouveau de la mine. Alors, l'introduction, c'est « L'exploitation minière est une activité fondamentale pour le développement économique et technologique. Elle joue un rôle crucial dans le développement de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Depuis l'Antiquité, où l'extraction des métaux a permis de forger les premières civilisations, jusqu'à l'ère industrielle qui a vu la mine s'étendre au service d'une modernisation sans précédent, ce secteur n'a cessé de se transformer. » Aujourd'hui, la mine moderne s'illustre par l'intégration de technologies avancées, de pratiques plus durables et d'une prise en compte croissante des enjeux environnementaux et sociaux. Cependant, cette évolution est marquée par les défis complexes tels que la raréfaction des ressources, la pression environnementale et les impératifs de transition énergétique. Cet exposé propose d'analyser cette évolution en commençant par un panorama historique de l'exploitation minière à travers le monde, en mettant en lumière les étapes clés de son développement. Une attention particulière sera portée à l'évolution de l'industrie minière en France, qui après un long déclin connaît aujourd'hui un renouveau porté par de nouvelles dynamiques économiques et technologiques. Enfin, cet exposé explorera le rôle majeur des écoles d'ingénieurs dans ce renouveau, notamment dans la formation des ingénieurs miniers de demain, leur contribution à l'innovation et à la recherche, ainsi que leur engagement pour un secteur plus durable et respectueux des enjeux globaux. Alors, histoire et évolution de l'exploitation minérale dans le monde. Les premières mines et l'Antiquité. L'exploitation minière remonte à la préhistoire, où les premiers hommes extrayaient des pierres et des minerais pour fabriquer des outils et des armes. Les premiers métaux utilisés furent le cuivre et l'or, dont les dépôts étaient exploités en surface. Alors, la préhistoire et l'âge du cuivre. Les plus anciennes traces d'exploitation minière datent du néolithique, avec des carrières d'obsidienne et de silex. Vers 5000 avant Jésus-Christ, les premières mines de cuivre apparaissent au Moyen-Orient, notamment en Anatolie et en Iran. Le cuivre était extrait à l'aide d'outils en pierre et fondu dans des fours rudimentaires. Alors, l'Antiquité, les grandes civilisations minières. D'abord, Mésopotamie et Égypte. C'est dès 3000 avant Jésus-Christ, les Mésopotamiens et les Égyptiens exploitent des mines de cuivre et d'or dans le Sinaï et la Nubie. L'Égypte utilise l'or pour ses ornements et ses temples et met au point des techniques avancées comme le lavage des sables aurifères. Grèce et Rome. Les Grecs exploitent principalement l'argent du Laurion pour financer leur économie. Les Romains développent des techniques minières sophistiquées comme l'utilisation de roues hydrauliques pour drainer l'eau des mines et la construction de galeries profondes. Ils exploitent des mines en Espagne, Rio Tinto, en Grande-Bretagne et en Gaule. L'Empire chinois, la Chine ancienne, développe également une industrie minière avancée, notamment pour l'extraction du fer et du sel, essentiels à l'économie et au commerce. Techniques et conditions de travail. Les techniques d'extraction minière évoluent avec l'ingéniosité humaine. Les méthodes employées durant l'Antiquité incluent l'exploitation à ciel ouvert, utilisée pour les minerais en surface, les galeries souterraines, creusées avec des outils rudimentaires, le feu et l'eau, technique permettant de fragiliser la roche avant extraction et l'utilisation, bien sûr, d'esclaves et de travailleurs forcés, notamment dans l'Empire romain où les conditions de travail étaient extrêmement difficiles. Ces développements posent les bases de l'industrie minière moderne qui continuera d'évoluer avec la révolution industrielle et les nouvelles technologies. La révolution industrielle et l'expansion minière. La révolution industrielle amorcée à la fin du XVIIIe siècle transforme profondément le secteur minier. L'essor des machines à vapeur, donc vers 1769, et le développement des chemins de fer, également au XVIIIe siècle, nécessite une exploitation accrue des ressources fossiles, notamment du charbon et du fer. Alors, le rôle du charbon dans l'industrialisation. Le charbon devient l'énergie clé de l'époque, alimentant des locomotives, les usines et les hauts fourneaux. Les bassins auliers majeurs se développent en Angleterre, dans le Midland, le Pays de Galles, en France, Nord-Pas-de-Calais et Lorraine, et en Allemagne, dans la Ruhr. L'exploitation minière connaît une forte expansion avec l'ouverture de nombreuses mines et l'emploi massif d'ouvriers. Alors, les nouvelles technologies et conditions de travail. L'industrialisation entraîne des innovations majeures dans les techniques minières. L'utilisation de pompes à vapeur pour évacuer l'eau des galeries profondes, l'emploi de dynamite, inventé par Alfred Nobel en 1867 pour faciliter l'extraction des minerais, et l'amélioration des systèmes de ventilation, réduisant les risques d'explosion et d'asphyxie. Cependant, les conditions de travail restent difficiles. Longues heures, travail des enfants et danger permanent, effondrement, coups de grisou, maladies pulmonaires. Alors maintenant, on va parler de l'expansion mondiale et de l'exploitation coloniale. Avec l'expansion des empires coloniaux européens, l'exploitation minière s'intensifie en Afrique, pour l'or et les diamants, en Afrique du Sud. En Amérique du Sud, mines de cuivre au Chili, d'argent en Bolivie et en Asie. Les puissances européennes exploitent ces ressources pour soutenir leur développement industriel. Cette période marque ainsi une transformation radicale de l'industrie minière, préparant le terrain pour les avancées du XXe siècle. L'ère moderne et les nouvelles technologies minières. L'industrie minière moderne s'appuie sur des innovations technologiques pour améliorer l'efficacité, la sécurité et la durabilité de l'exploitation des ressources. Parmi les avancées majeures, on trouve l'automatisation et la robotique. Les drones et les engins autonomes permettent d'explorer et d'exploiter les mines avec moins de risques humains. L'automatisation réduit les coûts et augmente la productivité. L'intelligence artificielle, l'IA et les big data. L'IA aide à analyser des données géologiques complexes pour optimiser l'exploration et améliorer la gestion des ressources. Les algorithmes prédictifs permettent aussi de détecter des risques liés à l'exploitation. Les énergies renouvelables. De plus en plus de sites miniers intègrent des sources d'énergie verte, solaire ou éolien, pour alimenter leurs opérations, réduisant ainsi leur empreinte carbone. Ensuite, il y a l'exploration sous-marine et spatiale. L'exploration des fonds marins et des astéroïdes est une perspective d'avenir. Certaines entreprises investissent dans la recherche pour extraire des métaux rares au-delà des limites terrestres. Le recyclage des métaux. Une approche complémentaire consiste à récupérer et recycler les métaux issus des déchets électroniques et industriels, limitant ainsi la dépendance à l'exploitation primaire. Ces innovations permettent de répondre à la demande croissante en ressources minérales tout en réduisant les impacts environnementaux et en améliorant les conditions de travail dans le secteur minier. L'état actuel de l'industrie minière. Alors, les principaux pays extracteurs, vous pouvez voir qu'il y en a absolument partout dans le monde, et on ne va pas rentrer dans ce détail-là, qui, s'il vous intéresse, vous pouvez le retrouver très facilement, savoir où se trouve tel ou tel métaux. Les principaux pays extracteurs de minerais dans le monde sont des acteurs majeurs maintenant sur le marché mondial des ressources naturelles. Ils jouent un rôle clé dans l'approvisionnement des industries mondiales en matières premières essentielles à la production d'énergie, à la fabrication de biens technologiques et à l'édification des infrastructures. Alors, voici un détail des principaux pays extracteurs pour certaines ressources minières clés. Pour le charbon reste une des ressources les plus exploitées dans le monde, bien que sa part dans la production mondiale d'énergie est diminuée avec la transition énergétique. Alors, je vais vous dire les principaux pays, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pourrez le retrouver dans le manuscrit, il y en a un petit peu plus, ça ira plus vite. Donc, la Chine, c'est de loin le plus grand producteur de charbon au monde. L'Inde est également un gros producteur de charbon. Les États-Unis, bien que la production de charbon ait diminué en raison de la transition vers des énergies publiques, plus propres, les États-Unis restent un des plus grands producteurs mondiaux. L'Indonésie, grand exportateur de charbon, et la Russie. La Russie est également un acteur majeur du développement du marché mondial du charbon, avec d'importantes réserves dans des régions comme le Kouzbass. Le pétrole. Le pétrole est une ressource stratégique dans l'économie mondiale utilisée comme pour l'énergie, les transports et la production de produits chimiques. Alors, dans l'ordre, les États-Unis, boom de production de pétrole, l'Arabie Saoudite, qui est le plus grand producteur, l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole avec des réserves considérables, la Russie, un autre géant de la production pétrolière. Elle produit de grandes quantités de pétrole, principalement en Sibérie et dans la région de l'Oural. L'Irak. L'Irak possède des réserves de pétrole parmi les plus importantes au monde, mais marquée par des défis politiques et logistiques. Le Canada. Canada, producteur majeur de pétrole, notamment grâce aux sables bitumeux de l'Alberta. Les métaux précieux maintenant. L'or, l'argent et le platine. Les métaux précieux sont utilisés dans la fabrication de bijoux, l'industrie électronique et comme réserve de valeur. Alors, les principaux pays sont la Chine, premier producteur mondial d'or, suivi par l'Australie, deuxième producteur mondial d'or, la Russie, producteur majeur d'or, exploitant des gisements, notamment en Sibérie. L'Afrique du Sud, c'était historiquement le premier, mais son rôle a diminué au fil des ans. Toutefois, elle reste un acteur clé avec des mines importantes. Le Mexique. Le Mexique est également un grand producteur d'or et d'argent. Et le Pérou. Le Pérou est l'un des plus grands producteurs d'argent et possède des mines importantes dans les Andes, notamment Puno et Arequipa. Voilà maintenant les terres rares, dont on parle beaucoup actuellement. Les terres rares sont des éléments cruciaux pour la fabrication de produits technologiques modernes, y compris les batteries de voitures électriques, les téléphones mobiles et les énergies renouvelables. La Chine, alors les pays, la Chine domine le marché des terres rares, produisant environ 60 à 70% de la production mondiale. Le pays possède des gisements importants dans la région de Baotou et Mongolie intérieure. Les États-Unis sont un acteur important dans l'extraction des terres rares avec la mine de Mountain Pass en Californie qui a rouvert après des années de fermeture. L'Australie est également un grand producteur de terres rares, notamment grâce à la mine de Lynas dans le Queensland, qui est l'une des plus grandes au monde en dehors de la Chine. Le cuivre. Le cuivre est un métal crucial dans la fabrication de câbles électriques, d'équipements électroniques et dans les infrastructures en raison de ses excellentes propriétés conductrices. Les pays producteurs sont, dans l'ordre, le Chili, le Pérou, la Chine. Bien qu'elle soit quand même un importateur net de cuivre, elle possède des gisements et est le troisième plus grand producteur mondial. Les États-Unis, avec celle de Bingham, Canyon, dans l'Utah, parmi les plus grands producteurs de cuivre. Le nickel. Le nickel est utilisé dans la fabrication d'acier inoxydable, de batteries et d'autres alliages industriels. Les pays producteurs sont, dans l'ordre, l'Indonésie, les Philippines, la Russie. Si vous connaissez, c'est l'entreprise Norisk Nickel, avec des gisements importants dans la péninsule de Kola, en Russie. Les enjeux environnementaux et sociétaux. Les activités minières peuvent avoir de lourdes conséquences sur l'environnement, tant au niveau local qu'à l'échelle mondiale. Voici les principaux défis. D'abord, la dégradation des terres et des écosystèmes. L'exploitation minière modifie radicalement le paysage et peut entraîner la déforestation, la perte de la biodiversité et la destruction d'habitats naturels. Cela se produit surtout lors des exploitations à ciel ouvert, comme ici par exemple, où de vastes étendues de terre sont déblayées pour accéder aux gisements. Ce processus peut entraîner la perte de végétation et d'espèces animales endémiques, dont certaines sont parfois déjà en danger. La fragmentation des écosystèmes réduit la capacité des espèces à se déplacer ou à survivre dans des environnements perturbés. Exemple, la déforestation en Amazonie, où des mines d'or illégales détruisent de grandes parties de la forêt tropicale, contribuant à la perte d'une biodiversité unique et à l'accélération du changement climatique. La pollution de l'eau. L'exploitation minière, en particulier pour l'extraction de métaux tels que l'or, le cuivre et le zinc, peut contaminer les ressources en eau avec des produits chimiques toxiques comme le mercure, le cyanure et les acides qui sont souvent utilisés dans des processus d'extraction. Cette pollution affecte les rivières et les nappes phréatiques. Les produits chimiques se retrouvent dans les cours d'eau et les aquifères, contaminant l'eau potable et menaçant les écosystèmes aquatiques. Ça menace également la santé des populations locales. L'eau contaminée peut entraîner des problèmes de santé graves, notamment des maladies infectieuses, des cancers, des troubles neurologiques et rénaux. Exemple, les mines d'or illégales dans les régions d'Amazonie utilisent du mercure pour extraire l'or, ce qui crée une pollution massive des rivières affectant non seulement les écosystèmes locaux, mais aussi les communautés riveraines qui dépendent de ces ressources pour leur subsistance. Les émissions de gaz à effet de serre. Les mines, particulièrement les mines de charbon, sont de grandes sources d'émissions de CO2 et de méthane, des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique, comme on peut le voir ici sur cette image. De plus, les combustibles fossiles extraits sont utilisés pour la production d'énergie, générant ainsi davantage de gaz polluants. L'exploitation minière peut entraîner l'émission de poussières fines qui ont des effets néfastes sur la qualité de l'air et la santé publique. L'impact sur les sols. Les pratiques minières, notamment l'exploitation à ciel ouvert, peuvent entraîner une érosion des sols et leur infertilité. L'enlèvement de couches superficielles de terre détruit la structure du sol, ce qui empêche la régénération végétale et perturbe les activités agricoles locales. Enjeux sociétaux. Les impacts sociaux de l'exploitation minière sont multiples et touche principalement les communautés locales qui vivent à proximité des sites miniers. Ces impacts peuvent être à la fois économiques, culturels et sanitaires. Les conditions de travail et l'exploitation des travailleurs. Le travail dans les mines, en particulier dans les pays en développement, est souvent dangereux, mal rémunéré et soumis à de mauvaises conditions de travail. Les travailleurs sont exposés à des risques sanitaires. Ils sont souvent confrontés à l'inhalation de poussières toxiques, aux bruits intenses et aux vibrations, ce qui peut entraîner des maladies pulmonaires, des troubles musculo-squelettiques et d'autres pathologies. Des accidents du travail. Les mines sont des lieux où les accidents sont fréquents. allant des explosions aux glissements de terrain, entraînant des blessures graves et des pertes humaines. Exemple, dans les mines de charbon en Chine. L'exploitation minière est une activité à haut risque, avec de fréquents accidents et des conditions de travail très difficiles. Déplacement et droits des communautés locales. L'extension des... Ça, c'est une image qui montre qu'on va capter en fait les sols et qui montre bien ce que ça fait aux populations locales, quoi. C'est frappant, hein. Mais c'est comme ça. L'extension des zones minières peut entraîner des déplacements forcés des populations locales. Ce phénomène est particulièrement notable dans les pays en développement où des milliers de personnes sont parfois déplacées de leurs terres ancestrales pour faire place à des sites miniers. Cela pose plusieurs problèmes. La perte de terres agricoles. Les communautés agricoles perdent leurs sources de subsistance, les rendant dépendantes des compensations financières ou des emplois temporaires précaires dans les mines. Cela crée des problèmes de logement et de sécurité. De nombreuses personnes sont contraintes de vivre dans des conditions précaires, sans services de base comme l'eau potable ou les infrastructures sanitaires. Impact sur la santé des communautés locales. Les populations, il y a un peu des répétitions, hein, mais ça rentre dans le... Les populations vivant à proximité des mines sont exposées à multitude de risques sanitaires, notamment par la contamination de l'eau. Comme mentionné précédemment, l'eau polluée par des produits chimiques peut provoquer des maladies graves, des malformations congénitales, des cancers et des infections. Les problèmes respiratoires, l'exposition à la poussière de minerais et à d'autres substances toxiques peut entraîner des maladies respiratoires chroniques comme la silicose. La violence et des conflits sociaux. Les tensions autour de l'accès aux ressources naturelles peuvent entraîner des conflits, notamment entre les communautés locales et les entreprises minières ou au sein même des communautés. Alors ça, c'est frappant aussi, cette diapo, pour montrer l'effet sur les cultures et traditions. Parce qu'on voit ici une mine, mais qui s'est implantée sur des terres sacrées. Hein, c'est des terres sacrées, donc ils vont violer l'espace des personnes qui vivaient là et qui... Alors, les communautés locales, notamment celles des peuples autochtones, subissent des pertes culturelles en raison de l'exploitation des ressources minières. Comme ici, destruction de sites sacrés. L'exploitation minière peut empiéter sur des terres considérées comme sacrées ou ayant une grande valeur historique et culturelle pour les communautés locales. Ça entraîne également, bien sûr, une modification du mode de vie traditionnel. L'extraction minière perturbe les modes de vie traditionnels, en particulier dans les régions rurales où les populations dépendent de l'agriculture ou de la pêche pour leur subsistance. Ça crée des inégalités économiques et sociales. L'exploitation minière peut entraîner des inégalités, bien que l'industrie génère des profits considérables. Ces bénéfices ne sont pas toujours répartis équitablement. Les entreprises minières profitent souvent des ressources naturelles sans que les communautés locales en tirent un avantage proportionnel. Exploitation des ressources naturelles sans bénéfice local. Les profits des mines sont souvent captés par des entreprises multinationales, tandis que les travailleurs locaux sont mal rémunérés et les régions minières restent sous-développées. Alors maintenant, on va parler du renouveau de la mine en France. On va se localiser plus en France pendant un moment. Donc, historique de l'exploitation minière en France. L'exploitation minière en France remonte à l'Antiquité, où les premières traces d'extraction de minéraux sont observées. Les Gaulois, par exemple, exploitaient déjà le fer et le cuivre, qui étaient utilisés pour fabriquer des armes et des outils. Mais c'est au Moyen-Âge que l'exploitation minière prend un véritable essor, notamment avec l'extraction de métaux comme l'argent et le plomb, très recherchés pour la fabrication de bijoux, de monnaie et de métaux. Maintenant, on va reprendre... Attendez. Ah non. Ah ben oui, forcément, j'ai pas le... Alors, je vais reprendre la diapo 9. La diapo 9. Pour que vous puissiez mieux suivre. Je l'avais remise dans mon nouveau truc, mais...
Elle n'y est pas,
mais elle est... Voilà. Cette diapo-là, on va reparler qu'au XVIIIe siècle, l'extraction minière se développe de façon significative, notamment dans les régions de l'Est et du Nord de la France et en Lorraine. La Champagne et plus tard le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais. L'exploitation du charbon devient essentielle au XVIIIe siècle pour alimenter les premières industries et forges du pays. Le charbon devient un combustible clé pour les machines à vapeur, marquant ainsi le début de l'ère industrielle en France. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, l'exploitation minière atteint son apogée. Le charbon, le fer, le zinc et le plomb sont extraits à grande échelle pour soutenir l'industrialisation. Des mines énormes sont ouvertes, en particulier dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine et l'Aquitaine. L'essor des mines est accompagné de nombreuses transformations sociales, car des milliers de travailleurs migrent vers ces régions minières, créant une main-d'œuvre importante, mais souvent soumise à des conditions de travail difficiles et dangereuses. Alors c'est là qu'on a eu beaucoup recours aux migrants. Hein, moi, je suis issue de la région du Nord. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de Polonais, beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, mais notamment les Polonais. Hein.
Ils ont émigré partout, de toute façon. On ne peut plus s'en débarrasser.
Oui.
Même à
Chalon-sur-Saône. Mais dans le Nord, c'était impressionnant. Hein. Bah, il y avait énormément de Polonais. À Monceau aussi, oui. Oui, c'est vrai. Oui, oui.
Beaucoup venaient d'Allemagne, beaucoup de Pologne.
Au XXe siècle, les mines continuent de jouer un rôle clé. Mais les coûts d'exploitation augmentent en raison de la mécanisation et de la baisse des réserves. À partir des années 1960, la concurrence des mines étrangères et l'épuisement des gisements commencent à freiner l'exploitation, conduisant à la fermeture progressive des mines. La dernière mine de charbon, à la Houve, en Lorraine, ferme en 2004. Marquant la fin de l'exploitation du charbon en France. Alors, je vais revenir à la diapo 35. Voilà, là. Donc, la relance des activités. Alors, depuis les années 2000, la France a amorcé une forme de relance partielle des activités minières. Mais cela a pris un tournant différent de l'exploitation traditionnelle des ressources. Cette relance est surtout axée sur les ressources stratégiques et les métaux rares nécessaires pour des secteurs comme les technologies de l'information, l'énergie renouvelable et la transition énergétique. L'une des raisons de cette relance est la prise de conscience de l'importance des ressources minérales pour les industries modernes. Le besoin de métaux rares et de terres rares, essentiels pour la fabrication de batteries, de panneaux solaires et d'équipements électroniques, a poussé le gouvernement français et l'Union européenne à réévaluer l'exploitation minière. Plusieurs projets ont été lancés pour explorer de nouveaux gisements en France, notamment de lithium, de cobalt et de graphite, des métaux critiques pour la transition énergétique. Alors, le projet le plus emblématique de cette relance est la réouverture de certaines mines pour l'extraction de lithium, principalement, comme on le voit ici, dans le Massif central, où des gisements de lithium sont jugés prometteurs pour soutenir la production de batteries de voitures électriques et d'autres technologies propres. Le gouvernement français, avec la participation d'entreprises privées, a mis en place des mesures pour encourager l'exploration géologique et soutenir la recherche dans le domaine des matières premières critiques. Alors, maintenant, on va parler des perspectives d'avenir. L'avenir de l'exploitation minière en France semble se tourner vers l'innovation technologique, l'exploitation durable de ressources et l'intégration de la France dans une économie verte, Le pays est déterminé à se positionner comme un acteur de la transition énergétique, ce qui passe par l'extraction de minerais stratégiques et leur transformation pour soutenir des industries comme les batteries et les énergies renouvelables. La France mise également sur l'innovation pour rendre l'exploitation minière plus respectueuse de l'environnement. L'utilisation de technologies telles que la numérisation des mines, les drones et les robots pour inspecter les sites miniers et surveiller la sécurité des opérations est en constante progression. De plus, la recherche sur le recyclage des matériaux et l'économie circulaire pourrait réduire la dépendance à l'exploitation minière en favorisant la réutilisation des matériaux extraits. En ce qui concerne la formation, plusieurs écoles d'ingénieurs en France se sont spécialisées dans les domaines de la géologie, des ressources naturelles et des technologies minières. Ces établissements, comme l'École des mines de Paris, l'IMT, qui signifie Institut des mines Télécom, et l'Université de Lorraine offrent des formations de haut niveau qui permettent aux étudiants de se préparer à travailler dans des industries liées à l'extraction minière, à la géologie et à la gestion des ressources naturelles et à l'innovation technologique. Ces écoles forment des ingénieurs capables de répondre aux défis environnementaux et technologiques de demain, notamment en optimisant l'extraction des minerais tout en minimisant son impact écologique. Les diplômés de ces écoles jouent un rôle crucial dans la transition énergétique, notamment en développant des solutions pour l'extraction plus propre des ressources, le recyclage des matériaux et la gestion durable des ressources minières. Alors, le rôle des écoles d'ingénieurs dans le renouveau de la mine. Les formations en ingénierie minière et géologique. Les écoles d'ingénieurs jouent un rôle fondamental, comme ça vient d'être dit, dans le renouveau du secteur minier en formant des ingénieurs et des techniciens spécialisés dans les différentes branches de l'exploitation minière. Ces formations sont cruciales, bien sûr, pour répondre aux besoins d'un secteur en constante évolution, notamment avec l'émergence des nouvelles technologies et la prise en compte des enjeux environnementaux. Alors, il y a une liste des écoles spécialisées. Hein. Je ne vais peut-être pas vous la relire parce que vous la retrouverez dans le document. Mais en tête de liste, il y a l'école des mines, et notamment à Paris, Saint-Étienne, Nancy, etc. Formation de haute qualité qui combine des connaissances techniques en géologie, en géophysique, en ingénierie des mines, tout en intégrant des modules sur la gestion de l'environnement et la sécurité. Ces institutions offrent une formation polyvalente qui prépare les étudiants à concevoir et à gérer les projets miniers complexes tout en anticipant des défis environnementaux. Il y a également des partenariats avec l'industrie. Ces écoles travaillent en étroite collaboration avec des entreprises du secteur minier, ce qui permet de concevoir des formations adaptées aux évolutions du marché. Par exemple, les étudiants peuvent effectuer des stages dans des mines, participer à des projets de recherche ou encore collaborer sur des innovations spécifiques à l'exploitation durable des ressources naturelles. Il y a également des formations continues et des spécialisations. Avec l'évolution rapide du secteur, des écoles comme l'INSA, Institut National des Sciences Appliquées, et des formations de type Master en Géosciences permettent également une spécialisation dans des domaines comme la géophysique, la géotechnique et l'environnement minier, offrant aux étudiants des outils modernes pour faire face aux défis de l'industrie, tout en intégrant des préoccupations liées à la transition énergétique. Alors ça, c'est pour illustrer... la complexité du domaine.
Dans toutes les écoles, c'est comme ça. On en parlait encore samedi.
Oui. L'innovation dans le secteur minier est essentielle. C'est essentiel de moderniser les pratiques, rendre l'exploitation des ressources plus durable et moins polluante. Les écoles d'ingénieurs, à travers leurs départements de recherche et leur collaboration avec l'industrie, jouent un rôle clé dans le développement de ces nouvelles technologies. Il y a déjà la recherche appliquée en exploration géologique. Donc, l'exploration des ressources minérales est un domaine crucial de l'industrie minière, comme on peut s'en douter. Et les écoles d'ingénieurs, comme l'École nationale supérieure de géologie ou l'École de géologie de Nancy, forment des experts capables d'utiliser des technologies avancées pour explorer de nouvelles zones riches en ressources. La recherche en géophysique, en images 3D, en télédétection, permet une exploration plus rapide et plus précise des gisements miniers, réduisant ainsi l'impact environnemental lié à l'exploration. L'exploitation durable et réduction des impacts environnementaux, les écoles mènent des recherches sur les méthodes d'exploitation plus respectueuses de l'environnement, comme l'utilisation de technologies pour minimiser la consommation d'eau, la gestion des déchets et la réduction de la pollution des sols et de l'air. Les mines intelligentes, qui intègrent des systèmes automatisés et des technologies d'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité et l'efficacité, sont un exemple de la manière dont l'innovation peut transformer l'industrie. Également, la collaboration avec des entreprises. En collaborant avec des entreprises minières, ces écoles de formation participent également à la mise en œuvre de nouvelles techniques d'exploitation. Par exemple, la recherche sur les procédés d'extraction du lithium, élément clé pour la fabrication des batteries, se fait en partenariat avec des entreprises engagées dans la transition énergétique. Alors maintenant, on va parler de la contribution au développement durable et à l'économie circulaire. Les écoles d'ingénieurs ne se contentent pas de former les professionnels de demain. Elles sont également des actrices importantes de la transition énergétique et de l'économie circulaire en formant des ingénieurs capables de concevoir une exploitation minière plus responsable par l'optimisation du recyclage des métaux et la réduction de l'empreinte écologique des mines. Donc l'optimisation du recyclage des métaux. Les ingénieurs formés dans ces écoles sont impliqués dans la recherche sur le recyclage des métaux tels que le cuivre, l'or et le nickel. L'extraction des ressources primaires étant de plus en plus complexe et coûteuse, il devient essentiel de maximiser le recyclage des matériaux. Des projets de recherche sur la réutilisation des métaux précieux issus des déchets électroniques sont menés en collaboration avec les entreprises spécialisées dans le recyclage. Maintenant, la réduction de l'empreinte écologique, les écoles développent des technologies visant à réduire l'empreinte écologique des mines. Par exemple, l'optimisation des procédés d'extraction par l'utilisation de technologies plus écologiques, bio-extraction, réduction de la consommation d'eau, méthode de récupération de l'énergie dans les mines, permet de minimiser les impacts environnementaux. Ces innovations permettent aux entreprises minières de se conformer aux réglementations environnementales de plus en plus strictes, tout en améliorant leur rentabilité. Économie circulaire maintenant, et valorisation des déchets. Alors, un chapitre prend un peu l'autre, mais ça se complète quand même assez bien. Le secteur minier doit aussi apprendre à traiter les déchets générés par l'extraction des ressources. Des solutions de valorisation des déchets miniers, comme l'utilisation des résidus de roches pour la valorisation, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour la création de sites de stockage de CO2, font partie des initiatives soutenues par les écoles. Ces projets vise à transformer les déchets en ressources, contribuant ainsi à l'économie circulaire et à la gestion durable des ressources naturelles. Il y a des partenariats et des projets collaboratifs. En France, les écoles ingénieurs, les industries minières, les laboratoires de recherche et les institutions publiques collaborent pour favoriser une transition vers une exploitation plus responsable. Des partenariats comme ceux entre les mines de Paris, École des mines de Paris, PSL et Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, visent à promouvoir des projets innovants pour réduire l'impact de l'industrie minière sur l'environnement et encourager la durabilité à long terme. Conclusion. Le secteur minier a traversé plusieurs époques, passant d'une activité artisanale et locale à une industrie de grande envergure, désormais résolument tournée vers l'innovation technologique et la responsabilité environnementale. Cette évolution est le fruit de siècles de progrès, d'adaptation et de réponse aux défis économiques, géopolitiques et écologiques. En France, après un long déclin, l'industrie minière connaît aujourd'hui un renouveau, porté par des stratégies visant à concilier développement durable, souveraineté industrielle et transition énergétique. Ce renouveau s'appuie sur une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et sur des technologies de plus en plus vertueuses permettant une exploitation plus responsable des ressources naturelles. Les écoles d'ingénieurs occupent un rôle central dans cette transformation en formant les experts du secteur à anticiper les défis de demain. Par la recherche, l'innovation, la transmission de savoirs techniques, elles contribuent à imaginer de nouvelles méthodes d'exploitation moins destructrices et plus respectueuses des impératifs écologiques. De plus, elles sont des acteurs essentiels dans la mise en œuvre des principes de l'économie circulaire, favorisant la réutilisation des ressources et la réduction de l'empreinte écologique de l'extraction minière. L'avenir de l'industrie minière, tant en France qu'à l'échelle mondiale, semble indissociable de ces progrès scientifiques et technologiques qui doivent permettre de répondre aux besoins croissants en matières premières tout en respectant les équilibres environnementaux et sociétaux. Merci pour votre écoute.
Bon, merci beaucoup de cet tour d'horizon tout à fait complet. Merci pour avoir préparé tout ça. Voilà. Hein.
J'aurais bien aimé dans une dernière affiche, regardez du sein, économie, ce soit en dessous, environnement.
Ah, d'accord. Oui, d'accord. Mais je ne l'ai pas fabriqué, on ne l'a pas fabriqué.
Il a pris l'image qu'il a trouvée.
C'est ça, c'est ça.
C'est tout, quoi. On voit encore.
Mais il y a quand même environnement.
Oui,
hein,
oui, non, mais ça ne fait rien. Mais on voit bien encore l'équilibre.
J'ai une question. Mais pas vicieux, mais...
Ne pas loin.
En France, on extrayait de l'uranium. J'ai un copain de Provence, il a débuté sa carrière dans une mine d'uranium au nord de Montpellier, enfin, du secteur de Montpellier. Je ne sais pas comment il s'appelait. Bon, j'ai perdu. Elle a été fermée, je dirais, pourquoi? Parce que c'est une vraie vacherie d'extraire de l'uranium. Tout ce qu'il y a autour, c'est abominable. Hein. Je crois qu'il y a de l'argon, de l'arsenic. Le renouveau des mines en France, c'est pas dans la liste. Hein,
elle n'y est pas, l'uranium, ça n'y est pas.
Totalement exclu.
Ben non, c'est qu'il n'y a pas.
Non, mais il faudrait prendre tous les métaux les uns derrière les autres. Voilà. Là, on focalise quand même sur le lithium. Il y a eu beaucoup de médiatisation autour de ça.
Ça date de 2021, donc.
C'est là où c'est un peu vicieux. On dit qu'il y a un avenir. Il ne faut pas oublier que d'extraire certains métaux, en dehors du problème environnemental et tout ça, c'est une vraie vacherie. C'est une vraie vacherie.
Alors, je crois qu'il faut séparer l'extraction de la de la pure, ce qu'on appelle, enfin, d'une façon générale, la purification. Ce qu'on extrait, c'est des cailloux.
Oui, dire, le minerai, c'est du caillou.
Voilà, il y a toute la transformation qui est compliquée. D'abord, qui est compliquée techniquement.
Si on ramasse des cailloux, c'est pour dire.
Oui. Non, mais là, dans l'exposé, le sujet n'a pas été abordé parce que ce n'était pas le sujet. Voilà.
D'extraire, bon, c'est une chose, mais la technologie de
transformation,
raffinage, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a des process qui sont
très compliqués.
Qui sont impossibles aujourd'hui, qui sont inadmissibles.
Dans les pays occidentaux, on va dire.
Voilà. Il y a une chose sur le lithium en Alsace. Ça fait 20 ans qu'on parle de lithium en Alsace. Tout le monde est vent debout. C'est une vraie vache à produire.
Le lithium, la première utilisation, ça a été pour Georges Marchais, pour le soigner de sa maniaco-dépressive. Georges Marchais, pour le soigner. Le somatico-dépressif.
Oui.
Alors, au début, on ne savait pas quoi en faire, alors on a cherché, on a mis ça au pif, on a trouvé que ça avait un effet peut-être sur les malades, et puis voilà, c'est la première utilisation. Quand on ne sait pas quoi faire.
Il y en a plusieurs de mines de lithium en France ?
Il y en a une dans l'Allier, là, qui est. On a beaucoup parlé, mais oui.
Pas si, hein.
Il y a une rivière qui s'appelle la Bèbre, à côté de la Palisse, qui est 100 fois plus radioactive que les autres rivières.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bon, tout est internationalisé, donc chacun se sert chez des minerais dans l'endroit où c'est le moins cher et c'est le plus facile à extraire. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, comme la donne géopolitique est en train de changer complètement. Tout le monde se pose la question. Alors, je suis pas dans. J'ai pas mis de micro dans le bureau de l'Élysée, là. Vous savez, cet après-midi, c'est la réunion du Conseil sur le nucléaire. Bon, je sais plus exactement la désignation de ça. Et parmi tout ça, il va y avoir un des sujets, c'est l'accès. Au mines d'uranium. Et vous savez qu'on avait fait les mines du Niger et on nous a éjectés du Niger. Bon, c'est pas dramatique en soi, mais enfin bon, ça prouve que de plus en plus il y aura ce type de problème. Et une des raisons pour lesquelles on fait un effort de recensement des possibilités en France et en Europe aussi, c'est que entre le moment où on fait le recensement et le moment où on fait éventuellement des mines, il se passe 20 ans. Parce que c'est compliqué, il y a les problèmes environnementaux, il y a tout. Et supposons que l'Europe arrive à se mettre d'accord. Je vous avais dit dans un exposé que j'avais fait, là, on a trouvé beaucoup de lithium à côté d'une mine de fer en Finlande. Ou en Suède, je ne me souviens plus. Parce qu'on a cherché, puis pof, 3 km plus loin, il y avait un énorme massif. Donc, oui, très bien. Donc, supposons que ça se fasse et qu'on exploite cette mine-là, de bons esprits diront, comme ils sont dans l'Union européenne, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Non, ils ne sont pas. Mais enfin, bon, ils sont dans l'Europe au sens culturel du terme, on va dire. Pour le moment, tout peut changer vite. Et donc, je pense que des gens diront, pourquoi s'embêter dans l'Allier à mettre en exploitation le lithium, alors qu'on a une ressource qui est moins chère et beaucoup plus abondante, enfin, en Suède, par exemple.
Ils n'ont peut-être pas d'éco-terroristes, là-bas.
Comment ?
Ils n'ont peut-être pas des éco-terroristes.
Si, mais il y en a, partout. Donc tout change tout le temps. Et c'est ça qui est difficile. La constante de temps de toutes les décisions et de la mise en œuvre industrielle, elle est 10 fois celle des péripéties géopolitiques du moment, quoi. Hein.
Donc, j'ai un autre exemple, c'est à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace.
Hein. C'est.
C'était des mines d'argent. Hein. Et des mines d'argent à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace. Qu'on fait la richesse de la ville au 19e siècle, et en 1920, ça a été fermé. Mmh. Les mines, il n'y aura pas besoin de creuser. Elles sont creusées. Oui. On peut redémarrer l'exploitation pour prendre la terre. C'est sans doute parce que l'argent, en plus de ça, je pense que c'est un métal qui est assez recherché en ce moment.
Oui, c'est sous les bras
de l'argent. Certainement pourquoi.
Donc, on l'utilise.
C'est parce que ça va être une vraie merde sur le plan, au point de vue technologique, au point de vue.
L'argent, ça peut être une alternative au manque potentiel de cuivre dans les applications. Parce que je rappelle que il y a un exemple célèbre, c'est le fameux accélérateur qui a été utilisé pour faire la bombe atomique. Il n'y avait pas assez de cuivre parce que tout allait dans les moteurs électriques pour la guerre. Hein, et donc, c'était pas prioritaire. Donc, on a fondu l'argent de Fort Knox, on en a fait des fils, on en a fait des bobinages. Une fois qu'on a arrêté la bombe atomique, on a tout refondu, tout ça, on a tout remis dans Fort Knox. Voilà. Parce que l'argent, c'est mieux que le cuivre. Au niveau, c'est le métal le meilleur conducteur. Sauf que quantitativement, il y en a beaucoup moins que le cuivre. Quoi. Mais le cuivre, que tout le monde entier se jette sur les mines de cuivre, on sent bien que ça va coincer. Hein. Hein.
On a la fibre optique.
Non, mais enfin bon. Non, le cuivre, c'est surtout les lignes à haute tension les voitures. Donc le renforcement de tout le réseau électrique dans le monde entier. Quoi. Donc,
tous les tuyaux.
Hein. Oui, les tuyaux. Oui. Mais enfin, disons, quantitativement, c'est vraiment les lignes à haute tension dont on sent un besoin frénétique de partout. Les Allemands, il n'y a pas de mine de cuivre en Allemagne, il faut qu'ils doublent leur capacité de lignes à haute tension en une décennie. Et donc, si on prend que ce cas-là, ils ramassent l'ensemble de la production mondiale. Et il y a d'autres qui sont en concurrence. C'est pour ça que le prix du métal part dans la stratosphère. Donc, comme c'est une industrie qui est capitalistique et très spéculative, je rappelle qu'il y a le London Metal Exchange, LME, voilà. Donc, il n'y a qu'une seule bourse au monde, c'est à Londres, et tout est fait d'une façon purement spéculative, et donc les gens qui veulent investir, ils regardent quasiment tous les jours les cours et les machins comme ça, ils sont la plupart du temps à contre-pied, parce qu'ils disent, le cuivre, il en a bien besoin, puis patatrac, tout le monde, puis après, il y a une spéculation à la baisse, la bulle se dégonfle, et puis les gens se retrouvent tout nus. Voilà. Non, mais là c'est... pour les matières agricoles, c'est pareil, mais les matières agricoles, il y a quand même un cycle biologique qui fait qu'il y a des bonnes années, mais il n'y a pas des coups d'accordéon comme ça dans la production. Mais pour le métal, c'est complètement aléatoire. Hein.
En Corse, on a trouvé du nickel il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Et pour l'exploiter, il suffit d'amener un aimant et ça se met sur l'aimant, et puis on appuie, et c'est sur des plages. Il y en a aussi sûrement sous l'eau, juste à côté, on peut en faire autant. Et ça coûte... les écolos, ils n'en veulent pas, mais c'est quelque chose qui est enfantin, faire ça. Et puis on ne sait pas si on va y arriver, parce que les gens du coin, ils n'en veulent pas.
Mais il faut voir le coût final. Ouais. Il faut aussi...
Ben, la transformation, la finale transformation, on a vu, je vous ai raconté, que les deux principaux, c'est le nickel et puis un peu moins le cuivre. L'aspect capitalistique, c'est les Chinois qui tiennent tout, toute la chaîne. Parce que c'est bien des entreprises qui sont multinationales et qui sont dans tous les pays. Puis quand on regarde la composition... du capital, il y a en direct des Chinois, 20%, puis on s'aperçoit qu'il y a des faunés qui sont en fait des avatars de Chinois, et ils ont la majorité.
Par exemple, on fait aussi des creuses tunnels, c'est la mine, ça aussi. Et pour creuser les tunnels, on était les premiers en France.
Oui.
Et ben, il y a d'autres gens qui ont. Qu'on utilisait ça sans nous refiler un coup de...
La baritine, ça sert à quoi? Parce que moi, j'en ai utilisé, mais pour faire...
Le quoi?
La baritine.
Bah, c'est du barium, non? Non?
Ça sert. Moi, quand je travaillais dans les ascenseurs, je faisais des contrepoids en béton de baritine. Parce que c'était...
Mais c'est très dense. C'est très dense.
Un béton qui était nettement plus dense que l'autre. Mais je
ne
sais pas à quoi ça sert.
Bon. C'est à mettre sur les routes quand on ne veut pas comprendre.
Hein, c'est rien, mais...
Mais moi, je ne connais rien aux mines, hein, bien entendu. J'étais surprise par ce que j'ai lu sur la France qui a l'air de...
Enfin, c'est
prometteur pour l'avenir, quand même. J'étais contente de lire tout ça, quoi, finalement.
Oui, mais parce que l'environnement devient instable à l'extérieur, donc oui. on commence à regarder ce qui reste dans le jardin, quoi.
Oui, hein,
alors qu'on avait dit, il suffit de passer une commande en Australie en Indonésie, ou ceci, ou cela... Le coût du nickel, bah tiens, le coût du nickel, c'est extraordinaire. Il y a du nickel en Nouvelle-Calédonie. Vive la France, c'est la France. Sauf que tous les trucs, la société du nickel, elle est en faillite parce que elle est prisonnière d'un retournement du marché du LME. Et puis, c'est compliqué. Il y a l'histoire des Kanaks. Oui. Qui se mélangent. Parce qu'en fait, les événements en Nouvelle-Calédonie, ils sont majoritairement liés à cette affaire de nickel. Parce que les Kanaks disent, le nickel, ben, on veut le prendre et puis avoir les sous pour nous. Mais voilà.
Mais on était quand même... Hein? On était les maîtres du coin, on s'est laissé avoir.
Voilà.
Ça, c'est sûr.
Mais moi, je suis allé au Canada, ils avaient trouvé des plantes qui absorbaient l'or. Le problème, après, c'est que pour faire de l'or avec l'or des plantes, c'était compliqué. Et ils ne savaient pas comment faire. Mais un jour, peut-être, on ira dans le gardon, là, puis on ramassera de l'or.
En quantité, c'est ça le sujet.
Ouais. Par exemple, l'aluminium, quand ça a commencé, ça coûtait l'impôt des faces. Hein.
La bauxite. Les Baux. Le nom du minerai d'aluminium, ça vient du village des Baux. Puisque l'invention du procédé d'extraction, c'est un chimiste français, c'est Sainte-Claire de Ville, qui a réussi à faire. Je rappelle que Napoléon III, il avait découvert en aluminium, parce que c'était très difficile à extraire, donc c'était plus cher que l'or, sous le Second Empire. Aujourd'hui, couvert en aluminium, ça craint un peu. Voilà. Et après, on a trouvé le procédé à la cryolite, là, donc électrolytique, qui est utilisé et qui fait qu'on sait le produire industriellement.
L'aluminium, ça a un très gros inconvénient, c'est que si on jette de l'anti. Quand il y a du feu, si on gèle du CO2 dessus, ça ravive le feu parce que l'aluminium est très oxydable.
Connaissance des mines, mais comment la France se situe par rapport à l'économie mondiale?
Elle est marginale.
Oui, c'est ça.
Non, par contre, une certaine souveraineté minière, oui. Ce serait pas plus mal. Ah ben oui, pour un certain nombre d'éléments, s'il y a suffisamment, bon, ben c'est le cas du lithium et des choses comme ça, qu'on puisse avoir un peu des choses comme ça. Ah parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Ah oui, bien
donc,
bien sûr.
Le...
Parce que là, le lithium, voilà, on a pas de production encore.
Hein
si,
il suffit que la Chine coupe les
robinets. Oui, c'est lithium, ça. C'est...
Oui, c'est
ça.
Oui, c'est
la Chine.
Il monte, le prix va monter.
Ouais, ils ont 90% de.
Eh ben justement,
oui.
Bah alors, bon, du jour au lendemain, c'est
bien. S'il y a des hostilités, ils peuvent les réguler.
Non, non, je rappelle où on a des. Des trous énormes qu'on a dans la raquette, en particulier en France et en Europe en général, c'est le titane. Le titane qui vient dans tout l'aéronautique. Toutes les pièces de structure dans l'aéronautique, c'est du titane.
Moi,
du titane. Voilà.
Moi, j'en ai partout.
Oui, non, mais d'accord. Dans les prothèses.
Mais là, il y a eu un article dans le JSL, hein, il n'y a pas longtemps, hein, sur l'industrie minière.
Alors, le titane, ben, là, il y a un os, parce que s'il n'y a plus de titane, ben, on ne fait plus d'Airbus. Ça, c'est clair. Hein.
Qu'est-ce qu'ils fournissent surtout alors,
les Russes. Titane. Les Russes. 60% du titane, c'est des Russes. Donc, il y a des embargos, il y a des sanctions. Le titane, il n'est pas sur la liste.
Hein. Et nous, quand on était gamin, on disait que. On nous disait qu'il restait. On nous disait qu'il restait en pétrole 15 ans de ressources. Et puis on nous disait qu'en France, on avait assez de pétrole pour alimenter toutes les mobilettes, tous les. Pas les mobilettes, les Solex, tous les Solex de France.
Alors ce qu'on ne dit pas dans les journaux, mais moi je sais, je le sais parce qu'on a eu le directeur de la DAM, la Direction des Applications Militaires, donc c'est des grandes branches du CEA hein, qui s'occupe de la bombe, quoi. Et il a comme mission non seulement de s'occuper de ça, de faire la bombe, mais de gérer les stocks stratégiques de métaux pour le compte de la France. Et donc, j'ai posé la question, c'est le gars qui m'avait posé la question, c'est Daniel Ververde, il a failli venir là au mois de mars, puis il a chopé une maladie tropicale. On a été obligé d'annuler, il y avait une conférence là, sur la simulation numérique, c'était à l'IUT, là. Daniel Ververde, moi, qui est venu à l'UTB là, en 2008, et j'avais discuté avec lui au moment des repas, là, il m'avait dit, alors je lui ai dit, mais alors, comment ça se passe pour les machins? Évidemment, c'est top secret, hein. Il n'a pas donné de chiffres et de choses comme ça. mais il dit, oui, je vous confirme que je m'en occupe, et c'est une de mes missions, et à l'époque, c'était Sarkozy qui était président de la République, et puis je lui ai dit, mais alors Sarkozy, qu'est-ce qu'il vous dit quand vous discutez de ce sujet-là? Parce que Sarkozy, bon, machin. Alors, il rigole comme ça, puis il m'a dit. On lui a donné des bonnes fiches, puis il les a lues avant. Ouais, c'est pas toujours le cas. Hein.
Ouais. Mon oncle, lui, il avait une entreprise pour récupérer les métaux. Et il y avait trois entreprises, une pour récupérer, une pour purifier, puis une pour faire les circuits avec. Mais son entreprise, il m'a fait visiter. Moi, j'aurais cru qu'on allait mourir en deux jours. Autour. C'était un grand bain, avec des acides partout. Puis il s'occupait de ça, mais avec ses ouvriers. Je comprends même pas que lui soit mort de ça. C'était un fort. Et alors maintenant, on peut mettre des robots à la place.
Cite un autre exemple qui date de la guerre 14. C'est le tungstène. Ah, le tungstène, ça sert à quoi? À faire les filaments des lampes à incandescence. Et pour faire des filaments de lampes à incandescence, ben, la technologie, même en 1914, c'est sophistiqué. Et donc, il fallait que la technologie de fabrication des lampes à incandescence, qu'on commençait à utiliser, ne serait-ce que pour les phares des camions et des bagnoles, soit était considérée comme une technologie de guerre. C'est-à-dire, il y avait des usines comme des arsenaux qui étaient protégés dans des souterrains pour qu'ils ne faisaient que des lampes à incandescence pour les mettre dans les phares de bagnole. Et c'est Clémenceau qui avait mis ça en place. Le père. Bah oui.
Il y a une diapo qui était avec les fonds sous-marins. C'est pas tellement des mines.
Oui. Ah bah oui, c'est le grand. Mais, les nodules. Les nodules.
Voilà. Et je voudrais avoir plus d'informations parce que les nodules, il y a un moratoire international qui est en cours.
Oui.
Et la France est bien emmerdée de le signer parce que.
Ben oui, elle a beaucoup de.
Beaucoup de. C'est le deuxième.
Oui, espace économique protégé.
Parce que, alors en ce moment, c'est pas tellement à la pointe. Parce que je crois qu'il faut aller chercher quand même en moyenne à 3-4 000 mètres de
distance. Oui, c'est pas simple.
Donc les remontées et tout ça, ça se fait bon. Mais je crois qu'un jour, si la technologie permettra de les ramasser, on les ramassera, hein, ça ne peut pas se faire d'illusion. Alors en ce moment, oui, mais alors l'écosystème, les coûts majeurs.
Tu parles.
Là, ça va être blague boulée en.
Mais ça existe déjà, les extractions des fonds sous-marins
ou... Oh non, c'est marginal. Non. Il y a des essais, mais c'est marginal.
Je crois qu'il faut. C'est 4000 mètres de profondeur.
Oui.
Dans le Pacifique, il y en a.
On racle les machins d'ailleurs.
J'ai un ami, moi, qui travaillait pour les centrales.
On peut descendre un bathyscaphe à 4000 mètres de profondeur, mais il y a deux bons hommes à l'intérieur. Hein.
Voilà.
On va remonter des tonnes de matériaux, c'est peut-être autre chose.
Hein. J'ai un ami, il était sous l'eau. Et il travaillait pour les plateformes pétrolières. Et il gagnait, mais c'était dingue. On lui demandait de rendre compte de son travail minute par minute. Et on l'emmenait en hélicoptère s'il fallait, mais on l'emmenait tout le temps là où il fallait.
Il était spécialisé alors.
Il était spécialisé. Et, lui, il s'achetait une voiture comme rien.
Le pétrole, je connais un peu, c'est quand on arrivait en forêt à 300-500 mètres, et maintenant on arrive à forêt à 1500 mètres, et on perce un trou à 1500 mètres. On ne ramène pas des milliers de tonnes de câbles, hein.
Dans les forêts, il y a aussi les tranchées qu'on fait pour se débarrasser du bois, pour faire descendre le bois. Ça, c'est. On en fait des tranchées aussi, nous, pour les pistes de ski. Pour les pistes de ski, ça empêchait les animaux de passer.
C'est pas la photo, là,
Mais il y a d'autres trucs, par exemple le bois. Le bois aussi, il y a un marché du bois.
Ah ben ça, oui, c'est sûr.
C'est une autre question.
Le bois, il faut.
Et en Ukraine, alors, ils
sortent des mines.
Il
n'y
a pas de
charbon,
certitude qu'il y a des grosses mines en Ukraine, des terres rares, pour le moment. Puisque...
De toute façon, tout ça, c'est des crayons de couleur sur une carte. Supposons qu'il y ait bien les ressources qu'on dit, entre le moment où on dit il y a les ressources, puis le moment où il va sortir quelque chose du trou, et il va se passer un certain temps, comme disait Fernand Reynaud. Hein. Le temps industriel dans les mines, c'est terrible. Donc on fantasme toujours en disant bah oui hein, mais bon après il faut que ça suive quoi.
Mais comment ils savent qu'il y a par exemple du lithium à tel endroit,
c'est en général des mines qui existaient déjà parce qu'en fait on dit pas il y a une mine de lithium, il y a que du lithium, il y a d'autres choses où, c'est ça le problème de l'uranium, tous les éléments du haut du tableau C'est tout mélangé. Les terres rares, elles sont pas rares, en fait, partout. Mais en fait, c'est tout mélangé. Donc, ce qui est, c'est pas de, c'est pas de prendre les cailloux, c'est de séparer les différents éléments, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué.
Même quand on cherche du fer, on trouve du fer oxydé. Et après, il faut le réduire.
Le minerai, c'est un caillou. On a tendance à l'oublier. C'est du caillou. Sauf le cuivre, qui est le natif, quoi, ou l'or. Et avant, c'est des cailloux.
Alors, moi, j'aurais une autre question. Comment ça se fait que là, par exemple, eh ben, le charbon, je sais, ça va à la dégradation du bois. Mais l'or, par exemple.
Non, mais c'est des processus, parce que l'or, il vient des supernovas, quand tout ça s'est agrégé. Tous les éléments au-delà de l'oxygène n'ont pas été formés dans la galaxie. Ils ont été formés dans les supernovas, et puis ça fait de la poussière dans l'ensemble du machin. Puis après, quand les éléments s'agglomèrent, eh bien, on a toute la batterie des éléments de la classification de Mendeleïev, là. Et puis, ma foi, ça s'est coincé. Après, c'est le magma qui s'est solidifié. Puis, suivant les conditions de pression, de température, de machin comme ça, tel minéral, il s'est coincé. C'est les fameux, comment on appelle, les cristaux, c'est-à-dire qui font pour la bijouterie, les machins comme ça, c'est que très localement, il y a eu des conditions particulières qui ont favorisé la cristallisation bien jolie, de bien ordonnée des cristaux. C'est ce qu'on voit dans les boutiques
À ce propos, il y a un truc qu'on pourrait faire, c'est visiter le musée des minéraux qui a à l'école des mines à Saint-Étienne.
Et c'est où, ça?
À Saint-Étienne, dans l'école.
À Saint-Étienne, oui, à l'école de Saint-Étienne.
Ça doit être encore mieux à Paris, mais ouais. Saint-Étienne, c'est moins loin.
Oui, ça, c'est toujours magnifique. Oui. Bon, on va remercier notre ami du travail qu'il a fait. Et de la répétitrice qui a fait l'exposé.
Merci.
Donc la fois prochaine, c'est Babou. Et donc on prendra 10 minutes pour essayer de faire une liste d'idées pour l'année prochaine. Parce que finalement, le processus a l'air de bien marcher. Mais il faut qu'on lance un peu les idées, disons à peu près, voilà, avril-mai, hein, pour que tout ça, ça se décante, pour qu'on puisse démarrer plein pot à la rentrée. Quoi. Donc merci à tous, et puis à de nouvelles aventures.
Il y en a après lui, il y a quoi encore?
C'est Perrault, là, qui... vous aviez dit en fin de saison, le coup du vieillissement, vous serez prêt?
Normalement, c'est l'an prochain.
Oui.
Ah, c'est l'an prochain.
Mais, oui, c'est l'an prochain.
Ah, d'accord.
Mais
donc,
si,
il n'y en a plus après celui-là.
Bah, si, après il y a le Hamas qui était.
Oui, le Hamas, voilà,
oui.
Il me semblait.
Oui,
j'avais
deux articles pour elle.
Et puis il y en a un autre aussi, j'ai vu qu'il y en avait deux autres derrière moi. Il y en a deux autres.
Oui, bon, je ne sais plus.
Le Hamas,
on va regarder.
La prochaine fois, c'est quoi?
Le sucre.
Le sucre.
Attendez, on va aller à la source, puisque en principe.
On voit disparition, le sucre.
Si c'est bien fait. On va aller regarder sur le... Bon. Alors...
Il y en a un 14 avril. Oui, c'est ça. J'ai pas su.
Non, le deuxième, c'est Perrault l'an prochain.
Ah oui, c'est l'an prochain.
Voilà. Donc, on reste là-dessus.
Ouais, moi, j'avais des documents... sur le problème du vieillissement. Vous les voulez
ou... Ils sont bienvenus.
Non, parce que c'est des articles du Monde ou des choses comme ça, je les avais gardés.
Alors...
J'avais fait un petit dossier aussi.
Vous avez eu les articles du Monde par...
Oui, ben, vous regarderez, hein, si ça vous intéresse ou pas. Parce que moi, Merci. Ma documentaliste.
Ouais. T'as une documentaliste?
Non, mais je distribue des articles sous synthèse.
Ah, tu es un peu une documentaliste. Ouais.
Donc, ben, commencez à y réfléchir.
Ah ouais, c'est étonnant dans cette période-là.
Moi, je crois que les événements globaux, internationaux, ils vont donner du grain à moudre pour l'année prochaine. Hein. Mais, non, mais il faut attendre que ça se décante un peu pour voir un peu où on met les pieds. Hein. Parce que je peux vous dire que là, j'ai eu un ouf de soulagement parce que j'ai dans mon catalogue un exposé, je l'ai fait il y a longtemps à l'UTB, là, sur Elon Musk.
Ah,
et puis
ouais.
Après, tout le monde me l'a demandé à Lons, à Beaune, à Monceau, le machin, puis je l'ai fait.
Et vous ne pouvez pas nous le faire, là, de ces
attendez, jours. Attendez. J'avais. Bon, en ce moment, les Beaune me demandent deux conférences par an. Donc j'ai dit, moi, j'invente aucune conférence, je fais des conférences, j'ai déjà préparé, donc, que j'ai déjà faites à l'UTB. Et donc, ce qui était prévu, c'était début mars, là, c'était Elon Musk, et au mois d'avril, c'était la tour, enfin, Eiffel, que je vais vous faire la semaine prochaine. La semaine prochaine et la semaine suivante. Et puis, je leur ai dit, écoutez, Eiffel, là, comme je suis en train de la préparer, je me suis rendu compte que ça tenait pas dans une seule case, il faut que je la coupe en deux. Alors elle dit parce que je lui dis je peux essayer de la tasser dans 2 heures mais donnez-moi 2 heures. Ah non ça nous casse les pieds voilà. Donc je l'ai fait aussi en 2 parties et là ouf donc on a enlevé parce que Elon Musk vu le contexte actuel c'est à prendre avec des enfin, c'est un truc enflammable. Et puis en plus, indépendamment de ce qu'on peut penser du bonhomme, comme il y en a une nouvelle toutes les demi-journées, c'est impossible de faire une conférence. Il faut attendre que ça se casse, qu'il se casse la gueule avec Trump.
J'ai vu des biographies sur lui. Un de mes petits-fils, il a sa biographie.
Mais j'ai toute ma conférence, puisque j'ai déjà fait, j'en suis à la version 15. Donc le c'est toute la biographie et là c'est factuel le machin mais les 2 dernières années j'en parle pas puisque bon bah là c'est emmerdant quoi. Donc je suis bien content que cette histoire de programme de machin bon ça a permis d'évacuer Elon Musk au moins l'année prochaine voilà.
On sait pas où il sera.
Non.
Sur Mars.
Ah oui sur Mars.
Bon, eh ben merci, et puis bonne fin de journée, puis à bientôt.
Oui, on ne sait pas où il sera.
Non.
Sur Mars.
Ah oui, sur Mars.
Bon, eh ben merci, et puis bonne fin de journée, puis à bientôt.